puisque la migration prend du temps partout, ne peut pas s'expliquer sans qu'il y ait des moyens, des outils pour que ça puisse se faire. C'est pour être tout qui les détient, je pense que c'est là où il y a les convoyeurs, certes, qui sont certains, mais aussi il y a les constructeurs du pirogue, mais aussi il y a les stations de carburant qui ravitaillent les carburants pour le voyage. Et c'est un carburant qui est du poids sur les gens. Alors, il y a certains matos, comme par exemple le fait qu'avant de partir, on prend la bénédiction des parents, on prend la bénédiction des grands. On s'entoure de qui font des sacrifices. Tout cela donc pousse le courage.
Nous avons un petit souci avec la liaison avec vous, professeur Nian. On a un peu du mal à vous entendre. Je vais vous écouter, vous, monsieur Sey, pour cette question. Que dire des causes profondes de ce pic de migration que le Sénégal a connu cette année?
Oui, donc ce qui c'est qu'il y a plusieurs, mais il y a certains qu'on peut bien retenir. Il y a la cause sociale, il y a la cause institutionnelle, il y a également la cause.
Je ne suis pas sûr que nous entendons le professeur Sey. Nous avons un petit souci de liaison ce matin. Monsieur Sey, vous êtes avec nous?
Oui, Alexandrine, je suis là.
Comment expliquez-vous ce pic de migration que le Sénégal a connu cette année? Quelles sont selon vous les causes profondes?
Pour parler des causes profondes, c'est les causes socio-économiques, naturellement. Quand les jeunes se ruent comme ça en bravant la mer pour rejoindre les côtes espagnoles, c'est qu'ils n'ont plus des raisons pour rester au pays. Donc voilà, c'est uniquement ces causes-là qui poussent les jeunes à traverser, à braver la mer pour emprunter l'océan. Donc il faut noter qu'au Sénégal, le phénomène a débuté dans les années 2005-2006. C'est pas un phénomène nouveau ici. C'est en 2005-2006 que le phénomène a débuté. En 2006, on a eu un pic de plus de 31 000 migrants, plus de 31 000 arrivés sur les côtes espagnoles qui sont passés par la mer. Et en 2023, on a dépassé ce pic-là. On en est à mes dernières estimations, quand j'ai consulté le site du ministère de l'Intérieur, en tout cas la base de données du ministère de l'Intérieur espagnol, on est à présentement, au 5 novembre, on était à 43 000 arrivés. Bien sûr, ce ne sont pas toutes des Sénégalais, mais en majorité, à 80%, c'est des migrants sénégalais qui débarquent sur les côtes espagnoles. Il faut savoir que dès l'avènement de Macky Sall à la tête du pays en 2012, il a lancé des programmes. Ce ne sont pas les programmes qui ont manqué pour fixer les jeunes dans ce pays-là. Il a lancé notamment le programme des domaines agricoles communautaires. Il a lancé aussi l'ADR, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, toujours pour financer les jeunes. Il a aussi lancé plus récemment en 2021 le programme Fais une Dami en Wolof, ça se traduit emploi des jeunes en français. Je rappelle juste que l'objectif du programme, le premier programme lancé en 2014, c'était la création de 300 000 emplois en l'espace de 10 ans, donc de 2014 à 2024. La création aussi de 2000 regroupements agricoles viables, mise en place aussi d'un programme d'incubation pour les jeunes. Tout ceci en 10 ans d'exécution, est-ce que ce programme a été bien mis en place et exécuté par les gens qui ont été choisis, ont été nommés par le président?
Donc, si je comprends bien vos idées, M. Fay, vous liez ce pic d'émigration à l'inefficacité, voire à l'échec de ces programmes mis en place par le gouvernement sénégalais.
Mais certainement, c'est un échec patent. Quand vous mettez en place trois programmes. Mettez financé plus de 400 milliards dans ces trois programmes-là en 10 ans et que les jeunes continuent de prendre la mer pour rejoindre l'Espagne, c'est qu'il y a un échec. C'est qu'il y a un échec patent de ces politiques-là. Est-ce que ces programmes-là n'ont pas été bien exécutés? Donc, en atteste ces vagues migratoires incessantes qui continuent malgré la chute des températures en Europe, ces jeunes-là qui préfèrent quitter le Sénégal pour aller braver la mer, le froid, mourir en mer, mourir mourir par froid.
Nous allons entendre M. Sey, Aboubakar Sey, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là.
J'aimerais entendre votre avis sur cette question. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce pic des migrations au Sénégal cette année?
Mais il y a plusieurs facteurs d'ordre conjoncturel, structurel, qui expliqueraient aujourd'hui cette intensification de ces flux migratoires clandestins sous l'aiguillon de l'extrême pauvreté. Nous avions même eu à alerter que l'ère post-coronavirus risque d'entraîner une intensification. Je ne dirais pas de creux de sens parce que le phénomène n'a jamais baissé d'intensité. Et parmi les causes, on pourra noter les causes économiques, donc le facteur économique. Le Sénégal est un pays à tradition migratoire, la migration est une pathologie dans notre pays et la cause principale, c'est l'extrême pauvreté. Le chômage endémique, chronique, structurel des jeunes, l'écart de la mauvaise gouvernance publique obstrue les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables, les inégalités sociales. Mais sans pour autant oublier cette nouvelle donne aussi avec l'arrivée de ces pêcheurs. Mais même si vous faites la cartographie des zones de départ, ben vous verrez que ce sont les zones de pêche Kayar, Mou, Sali, etc., etc. Parce que tout simplement, la pêche artisanale aujourd'hui, ces pêcheurs se disent écrasés par la pêche industrielle. Ces pêcheurs se disent écrasés par la pêche illicite, non réglementée et non illicite, et non déclarée. La zone économique exclusive a été pradée, on parle même de surpêche. Ce qui fait que ces gens aujourd'hui ne parviennent plus à vivre de leur métier. Le métier qui, au-delà d'être la pêche, est aussi de tradition. C'est des pêcheurs, c'est des matapates, comme on dit ça, comme on dit dans notre pays. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ne se retrouvent pas au point que on les retrouve dans les embarcations vers les îles Canaries.
En effet, les zones de départ sont essentiellement des villages de pêcheurs. Mais une chose est intrigante, rien que pour moi. Comment expliquer que le nombre de naufrages et de morts enregistrés lors de cette traversée ne décourage pas du tout les candidats au départ? Monsieur Niang, y a-t-il un aspect psychologique à prendre en compte?
Oui, mais est-ce que c'est parce que vous m'entendez bien?
Oui, je vous reçois très bien, Monsieur Niang.
Bien.
Je vous reçois.
Ah, ok. Voilà. Alors, donc, je pense qu'effectivement, il y a eu. Ça, on l'a dit, et cela est absolument vrai. L'essence a coïncidé bizarrement.
J'ai affirmé recevoir, mais apparemment, la liaison a toujours un problème, M. Niang, je suis sincèrement désolée. On revient à vous, M. Faye. Pour revenir à ces mesures demandées par le président Macky Sall, est-ce que vous avez des détails de ces mesures demandées par le président sénégalais?
Bon, les mesures sont des mesures d'urgence. Les mesures pour la plupart répressives, quand je parle de répression, c'est que il faut mettre en place d'abord un dispositif de surveillance pour empêcher les pirogues de quitter les côtes sénégalaises pour rejoindre les côtes espagnoles. À l'instant T du règne de Macky Sall, il ne peut prendre que des mesures d'urgence pour empêcher les jeunes de prendre la mer. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il a mis en place depuis l'avènement de son régime trois programmes pour naturellement fixer les jeunes au Sénégal et les empêcher de prendre la mer pour migrer vers l'Europe. Donc actuellement, ce qu'il faut faire, c'est augmenter le dispositif de surveillance de la marine nationale. On a acquis récemment un patrouilleur nouveau, le Wallo, et on a récemment acquis aussi, avant-hier, je pense, un nouveau patrouilleur, le Niani. D'ici 3 mois, on va encore acquérir le troisième patrouilleur et ça va accroître le dispositif de surveillance des côtes sénégalaises et peut-être réduire le nombre de pirogues qui s'échappent de ces eaux sénégalaises-là pour rejoindre les côtes espagnoles.
Est-ce que ces mesures vont-elles réussir à freiner, voire à résoudre le problème des départs clandestins au Sénégal? On va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs de cette crise migratoire au Sénégal. Je vous propose quelques commentaires. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad nous dit que la crise migratoire demeure le véritable mal à combattre et les candidats à la prochaine présidentielle au Sénégal doivent proposer des mécanismes adéquats pour y remédier, surtout la lutte contre le chômage, l'oisiveté et la cherté de vie. Il y a Omar Selin Kofi d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour lui, l'immigration clandestine sera loin d'être maîtrisée en Afrique tant que les mesures proposées par les chefs d'État resteront des effets d'annonce. Vivement que nos dirigeants prennent à bras le corps la question du chômage des jeunes afin de sortir la jeunesse africaine de cet océan de misère dans lequel elle est plongée. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC. Cette crise fera l'objet du débat électoral de la présidentielle et va influencer les votants dans leur choix si les solutions ne sont pas prises avant les échéances électorales. Mais la migration sénégalaise, selon lui, en particulier et de l'Afrique en général, ne pourra être résorbée que par des politiques socio-économiques donnant des opportunités de réussite, de vie meilleure à la jeunesse et à l'ensemble des populations. Vous suivez, voici le Code Forum, c'est sur VOA Afrique et on se retrouve juste après cette pause.
Salut Génie.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous,
c'est vous et nous.
Bienvenue si vous nous rejoignez Washington Forum sur VOA Afrique. Nous parlons des mesures demandées par le président Macky Sall pour lutter contre l'immigration clandestine au Sénégal avec nos invités Abdoulaye Niang, sociologue, professeur des universités à la retraite, Ayouba Faye, journaliste rédacteur en chef du site Presse Afrique, et Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Dans quelle mesure, selon vous, cette crise migratoire pourrait-elle influencer la présidentielle de 2024 au Sénégal? C'est la principale question. Monsieur Faye, qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne sais pas si cette crise migratoire aura des impacts, en tout cas sur l'élection présidentielle. Ce que je sais, c'est que plus de 20 000 jeunes sont sortis du pays, d'autres sont pratiquement morts en mer. Et quand on sait que le dernier sondage publié par l'Agence nationale de la démographie et des statistiques du Sénégal, ANSD, que la population évolue à 18 millions d'habitants et qu'il y a parmi ces 18 millions-là 13 millions qui ont moins de 35 ans, cela pose une question majeure. Donc les jeunes sont majoritaires au Sénégal et s'ils continuent de quitter le pays, il y aura forcément une conséquence sur les résultats de l'élection présidentielle en 2024. Maintenant, est-ce que ce problème-là va influencer les électeurs durant le scrutin du 25 février 2024? L'avenir nous en dira plus.
Monsieur Sey, selon vous, est-ce que cette vague de départ du Sénégal aura un impact sur la présidentielle à venir?
Oui, mais
j'entends pas.
Vous l'avez dit tout à l'heure, parce que malgré les naufrages, les gens continuent de partir. C'est parce que tout simplement, il y a un climat politique qui plonge le pays depuis plus de deux ans dans l'insuffit total. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Les gens sont guidés par l'instinct de survie. Et cela se dit dans la typologie des candidats. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est le Sénégal qui déménage. C'est un décotement du peuple sénégalais vers les îles Canaries. Nous avons l'impression que c'est une course de pilote vers les îles Canaries parce que tout simplement, il n'y a plus d'espoir. Le tout a tellement aujourd'hui perforé notre environnement socioculturel aux gens, au point que les gens ne pensent plus qu'ils peuvent vivre dignement dans ce pays-là. Nous avons eu des femmes, l'organisation aujourd'hui des migratoires clandestins, des enfants aux îles Canaries, on parle de plus de 3 800 mineurs à raison de 100 mineurs par jour, donc beaucoup. Qui m'a
dit. Monsieur Saïssi, vous nous recevez toujours. En quoi les politiques gouvernementales au Sénégal peuvent-elles être adaptées pour dissuader ou prévenir cette forme d'émigration?
Oui, mais parce que nous ne sommes pas encore. L'État du Sénégal devrait changer sa stratégie de lutte contre l'immigration clandestine. Il y a eu des mesures, c'est vrai, mais il faut revoir les orientations stratégiques de ces mesures. Quand l'État fixe la priorité sur les tout policiers, sur la surveillance maritime, ben, je dirais tout simplement que les solutions ne peuvent être ni militaires ni policières. S'attaquer de façon systémique à la cause principale. Donc, régler le problème moi je ne dirais pas dans toute sa complexité, mais sa globalité et sa transversalité, parce qu'il s'agit d'une question transversale aujourd'hui. C'est une migration clandestine qui est en train de décimer tout le Sénégal. Aujourd'hui, tout le pays est endémé. On ne peut pas vous dire le nombre de morts et de sports pour pouvoir aujourd'hui juguler le fléau. Et vu qu'on réduit les risques à des proportions vulnérables, je pense que l'État devrait quand même s'attaquer à la cause principale. Mais le tout policier risque de ne pas être efficace. Et pour preuve, le Frontex a plus de 10 000 policiers qui surveillent les frontières européennes. Le Frontex a des moteurs de navires. Hier, il y a eu plus de 1300 entrées illégales à Lampedusa. Depuis le mois de janvier, il y a eu plus de 200 000 entrées illégales, dont les 73%, les 71% du monde en Méditerranée centrale. Donc, il faut que l'État revoie sa stratégie. Il faut que l'État se remette en cause. Et pour mettre tout le monde à l'aise, nous sommes, vous allez jusqu'à dire que les responsables sont aujourd'hui partagés. Les responsables sont collectifs. Vous voyez, les familles avec la nouvelle économie de l'immigration d'intervention, c'est les familles qui cotisent. Il y a la cause déclinative, la notion de peuple lourd. Quelle personne est partie, voilà ce qu'il a réalisé. Donc, c'est tout un tas de facteurs qui expliquent aujourd'hui ce fléau et qui montre la complexité de ce phénomène. Le fléau est beaucoup plus complexe que ce que pense le gouvernement.
Le phénomène complexe en effet. Monsieur Faye, est-ce que vous voyez des solutions ou des suggestions pour maintenir en place ces jeunes qui, comme Monsieur Faye le disait à l'instant, n'ont plus d'espoir pour rester au Sénégal?
Oui, d'abord restaurer l'état de droit. L'état de droit est carrément altéré au Sénégal. Depuis mars 2021, on a été témoin de plusieurs manifestations suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko. On a eu des chocs de mars 2021 à juin 2023. Et je précise que les vagues de départ sont multipliées en juin 2023 après que Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison pour corruption de jeunesse dans l'affaire Suite Beauté et qu'il y a eu par la suite des manifestations violemment réprimées par les forces de défense et de sécurité. Il y a eu, on parle d'une soixantaine.
Vous pensez qu'il y a un lien entre ces manifestations de juin et les départs au Sénégal?
Ben, on ne peut pas soustraire le choc vécu par les populations sénégalaises en juin 2023 de ces vagues de départ vers l'Espagne. Je vous dis tout à l'heure que les premiers départs ont été notés juste après les événements de juin, les événements tragiques de juin qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Donc les jeunes qui ont pris la mer pour s'en aller, la plupart qui ont été interrogés sur place par des journalistes étrangers ont clairement indiqué qu'ils étaient des partisans de l'opposant principal Ousmane Sonko et qu'au Sénégal il n'y avait plus d'état de droit et qu'ils vivaient sous dictature et que les sympathisants d'Ousmane Sonko étaient traqués sur place. Donc, pour moi, pour faire renaître l'espoir à ces jeunes-là, il faut ramener l'état de droit, restaurer l'état de droit au Sénégal, parce que si on ne restaure pas l'état de droit au Sénégal, les jeunes ne se sentiront plus ici en sécurité. Il y a eu une vague d'arrestations au Sénégal après les événements de juin. Il y a eu plus de 1000 jeunes qui ont été emprisonnés, qui sont actuellement en prison au Sénégal. Les gens sont arrêtés pour des délits d'opinion, pour des publications sur les réseaux sociaux. Tout cela contribue à vraiment dégrader l'atmosphère politico-sociale du pays. Et pour moi, il faut restaurer l'état de droit pour redonner à la jeunesse sénégalaise.
Boubacar Sey, que pensez-vous de ces propos? Restaurer l'état de droit pourrait contribuer à maintenir la jeunesse au Sénégal, selon vous?
Absolument, il faut restaurer l'état de droit, mais il faudra l'adoption de tous les outils de pacification aujourd'hui pour l'organisation d'élections libres et transparentes. L'incertitude est totale dans ce pays-là. Les gens partent guidés par, je l'ai dit tout à l'heure, de l'instinct de survie. Parce qu'on ne sait pas ce que sera demain dans ce pays-là. Donc, évidemment, parmi ces jeunes, il y a des gens qui voyagent, qui ont opté de faire ce voyage pour échapper aux persécutions et aux autres. Tout récemment, nous avons enregistré un mot parmi ce qu'on appelle les influenceurs, etc. Donc, évidemment, il y a tous ces paramètres-là qu'il faudra pour restaurer l'histoire qui est déjà qui s'est envolée dans ce pays-là. Et pour cela, nous avions même dans les perspectives de solution à demander au président de diligenter le plus rapidement possible un dialogue national sur la question. Parce qu'il s'agit d'une question, d'une tragédie nationale qui touche tout le monde, et il faudra de façon systémique essayer de regrouper tout le monde pour envisager des perspectives de solution durables. Mais pour ceci, dans un climat social paisible, avec la situation pareille, évidemment.
Je vais laisser M. Niang, qui est de retour parmi nous, pour clore ce débat. M. Niang, vous nous recevez?
Oui, je vois.
Que voyez-vous comme solution à cette crise migratoire au Sénégal? Bonsoir. En quelques minutes.
Oui, vous dites quoi?
Que voyez-vous comme solution pour réduire ces départs massifs des jeunes des côtes sénégalaises? La liaison n'est toujours pas établie avec M. Niang. Je conclue plutôt avec vous, M. Sey. On a vu dans le reportage, en début d'émission, des initiatives privées pour la réintégration professionnelle des migrants de retour sur le plan national. Est-ce qu'il existe des programmes de réintégration justement pour ces personnes au niveau national?
En tout cas, s'il y a des programmes, ces programmes n'ont pas montré leur efficacité, parce que moi, je suis en contact des candidats qui ont été expulsés, mais aujourd'hui, qui sont d'éventuels candidats encore à l'immigration clandestine, parce qu'il n'y a aucune insertion socio-économique. Donc, ils sont pour la plupart laissés à eux-mêmes. Et là aussi, il faudrait que le gouvernement fasse avancer la grille de réflexion sur l'équation de retour. Donc, ça, revoir les orientations stratégiques de l'aide au développement, je l'ai toujours dit. Est-ce que les fonds qui ont été dégagés dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, est-ce que l'aide au développement entre réellement dans base réellement aux endroits? Donc, c'est tout ceci qui explique aujourd'hui que, effectivement, si on ne règle pas ce problème, tout s'est rapatrié, ils seront obligés d'être encore d'autres candidats à l'immigration clandestine, et c'est le cas de l'Espagne, parce que l'Espagne va rapatrier.
Merci, M. Sey. Merci à vous également, Abdoulaye Niang, même si on n'a pas pu vous écouter dans cette émission. À vous également, Ayouba Faye, pour votre intervention. Les conditions techniques n'ont pas été des plus favorables aujourd'hui. Washington Forum, le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h en temps universel. Sur VOA Afrique et en rediffusion samedi et dimanche. Vous pouvez également nous suivre à travers nos plateformes digitales. On vous retrouve la semaine prochaine.
Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser.